Voilà, laissons-nous pénétrer par le souffle de l'Esprit, le souffle de l'Esprit consolateur, qui vient nous pénétrer de l'amour divin pour changer nos cœurs. Déjà, cet Esprit souffle sur cette assemblée pour ouvrir les cœurs au Christ. L'Esprit est celui qui ouvre les cœurs au Christ, pour que nous soyons capables d'entendre sa parole, que nous soyons capables de recevoir ses grâces. Parce que Dieu veut nous donner des grâces, mais c'est souvent nous qui ne pouvons pas les recevoir. Nous sommes bloqués, nous sommes enfermés sur nous-mêmes, dans nos difficultés, dans nos détresses, dans notre péché. Et le Seigneur veut nous donner tellement de grâces innombrables que si nous voyons toutes les grâces, tous les cadeaux que le Seigneur veut nous donner, nous serions remplis de joie et nous les désirerions de tout notre cœur. Alors, demandons au Seigneur de vraiment ouvrir notre cœur à toutes les grâces que le Père veut nous donner pour nous manifester son amour. Pourtant, il aurait beaucoup de raisons d'être en colère contre nous, parce que nous ne suivons pas tellement sa parole, mais son amour déborde toujours, toujours plus fort que sa colère, pour se déverser sur nous en abondance, pour venir nous donner son pardon, pour venir nous donner sa paix. Alors nous allons commencer par écouter la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 46. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouèrent pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle !» Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Voilà, donc ce parcours du Seigneur entre son baptême et sa passion, ce parcours qui dure 3 ans, eh bien c'est un parcours où le Seigneur rencontre beaucoup de monde et de plus en plus de gens le suivent. Surtout que là, nous sommes à la veille de son entrée à Jérusalem. Beaucoup de gens le suivent, certains l'ont suivi, puis l'ont abandonné. Et puis Jésus, sans cesse, eh bien, de nouvelles personnes découvrent qui il est. Il va à la rencontre de nouvelles personnes sans cesse, il ne se décourage jamais. Il va rechercher toutes ses brebis comme le bon berger qui veut rechercher toutes ses brebis. Et dans ce pays, à cette époque-là, bien, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus tout de suite. Progressivement, la rumeur et les histoires et les témoignages se sont répandus sur son compte. Il a été de plus en plus connu, même si lui prenait le temps d'aller dans le désert pour échapper aux foules. Et voilà qu'il arrive à Jéricho, c'est-à-dire cette ville où il entre avant d'entrer à Jérusalem pour sa passion. Et en sortant de Jéricho, eh bien, voilà qu'il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée qui est au bord du chemin. Il y a une foule qui entoure le Seigneur, on peut se représenter la scène. Jésus, ses disciples, la foule, et puis cet aveugle qui voit cette foule arriver, qui entend les gens parler de Jésus, et finalement, et qui comprend que Jésus est là, au milieu de cette foule, et qui a entendu parler du Seigneur, il a entendu parler de ses miracles, il a entendu parler de ce qu'il fait. Et ce qui est étonnant, c'est que cet aveugle, eh bien, saint Marc donne son nom. C'est rare qu'il donne le nom des personnes dans l'Évangile, mais là, il donne son nom, il s'appelle Bartimée. Bartimée, parce qu'à l'époque, on s'appelait toujours fils de Bar, en hébreu, Bar ou Ben, qui veut dire fils. Donc Bartimée, fils de Timée. Ça signifie que, certainement, cet aveugle, ensuite, eh bien, dans la communauté chrétienne, il était connu. Bartimée, voilà, lui c'est Bartimée qui a été guéri par Jésus. Il a dû témoigner de nombreuses fois, donc il était connu. Certainement, c'est pour ça que Saint Marc connaît son nom. Il a continué à suivre Jésus longtemps, puis ensuite il a été dans l'Église. En tout cas, pour l'instant, c'est un aveugle, et comme il est aveugle, il est forcément mendiant, parce qu'à l'époque, quand on est malade, il n'y a rien, pas de sécurité sociale pour vous nourrir, rien du tout. Donc on est réduit à être mendiant. Peut-être qu'il n'a pas de maison, il n'a rien. Il est là au bord du chemin, réduit à dépendre du bon vouloir de ceux qui passent à côté de lui. Et quand il apprend que c'est Jésus, eh bien, il a quelque chose d'étonnant, c'est que tout de suite, dans son cœur, il y a une porte qui s'ouvre et il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Vous remarquerez que la phrase est très simple, il ne fait pas une prière compliquée. Il y a des gens qui se demandent « Mon Père, donnez-moi la prière qui marche pour guérir ». J'en sais rien. Mais lui, il fait une prière très simple en tout cas. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Mais ce qui touche surtout, c'est que c'est un cri qui vient du cœur. Et il dit Jésus, fils de David, ça veut dire qu'il reconnaît que Jésus est le Messie. Fils de David, ça veut dire toi qui es le Messie. Aie pitié de moi, c'est très simple. Aie pitié de moi, ça veut dire, j'ai pas besoin de te dire ce dont j'ai besoin, tu me connais. Aie pitié de moi. C'est la plus belle prière qu'on puisse faire de demande. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Mais la foule qui est là constitue un barrage entre lui et Jésus. Les gens, ça les dérange d'entendre, d'avoir ce mendiant qui crie. Et pour eux, ils n'ont pas compassion de cet homme, ils ne voient pas ses souffrances, ils voient juste quelqu'un qui dérange et qu'il faut faire taire. Donc la foule, parfois, est dure, peut-être dure et aveugle dans ses comportements, donc elle tente de faire taire cet homme. Mais cet homme ne se laisse pas impressionner, et il continue à crier de tout son cœur, « Fils de David, aie pitié de moi ». Parfois, notre prière doit être un cri. Alors, on crie extérieurement ou parfois dans notre cœur. Mais celui qui ne crie pas parfois dans sa prière, il n'a pas vraiment prié. Parfois, il faut crier vers Dieu. Non pas que Dieu est sourd, mais que quand on crie vers Dieu, ça veut dire que notre cœur aussi s'ouvre. Ça devient authentique dans notre cœur. C'est pas juste une prière un petit peu comme ça. Je prie, mais en fait, je suis pas vraiment dans ma prière. Celui qui crie, il est dans tout son être, dans ce cri. Et alors Jésus entend ce cri et surtout, comme il est Dieu, il connaît cet homme, mais humainement, il entend ce cri et il entend aussi ce que véhicule ce cri, toute l'émotion, toute la souffrance, toute la détresse, mais aussi toute la foi que véhicule ce cri. Et il s'arrête et il dit « Appelez-le ». Et il convertit ainsi le regard de la foule sur cet homme. Il ne va pas l'appeler lui-même, il demande aux gens peut-être qui ont rabroué cet homme de maintenant de l'appeler. Il leur donne la possibilité de se racheter, ceux qui ont constitué un obstacle entre cet homme et lui, en leur demandant de l'appeler. Le Seigneur nous donne toujours la possibilité de nous racheter quand on fait une bêtise, quand on fait quelque chose qui est mal. Bien sûr, il nous pardonne, mais il nous donne aussi la possibilité de nous racheter. C'est beau de pouvoir poser des actes qui sont bons, qui permettent, qui sont une collaboration à l'action de Dieu. Et alors la foule appelle cet aveugle en lui disant, et cette fois-ci ils ont une belle parole, il dit « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle ». Cette foule est complètement retournée par cet appel du Seigneur, elle a compris que cet homme a de l'importance aux yeux de Dieu, et elle lui dit cette belle parole « Aie confiance », une invitation à la foi. On a besoin de se laisser entraîner par les autres vers la foi, que des personnes nous disent « Mais aie confiance », on a besoin de l'entendre, et nous parfois de le dire à d'autres. « Lève-toi, il t'appelle ». Lève-toi. Se lever, c'est déjà un petit peu ressuscité. Lève-toi, il t'appelle. C'est extraordinaire de savoir que Jésus nous appelle. C'est une émotion très forte de savoir que le Seigneur nous appelle. J'ai fait cette expérience, c'est bouleversant quand le Seigneur nous appelle personnellement. Il t'appelle. Et à ce moment-là, il rejette son manteau, il bondit et il va à Jésus. Alors pourquoi l'évangéliste a noté ce détail qu'il rejette son manteau? Dans l'évangile, il n'y a jamais de détails inutiles. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais quand il y en a un, c'est que ça veut dire quelque chose. S'il rejette son manteau, c'est probablement que son manteau, c'est tout ce qu'il a pour vivre. Il est mendiant, donc on peut imaginer que son manteau, c'est sa maison. Son manteau, c'est sa maison. Il n'a probablement pas de maison, et la nuit, il met son manteau, il ferme son manteau, et c'est ce qui lui permet de ne pas avoir froid, certainement. Son manteau, c'est tout pour lui. Donc, quand il rejette son manteau, c'est-à-dire que le peu de choses qu'il a, il le laisse tomber pour aller encore plus vite vers le Seigneur. Il ramasse pas son manteau et le prend sur son bras pour aller vers le Seigneur, mais il le rejette et le laisse tomber. Il n'y pense plus, tellement l'appel du Seigneur est fort. En plus, il bondit, ça veut dire qu'on montre, l'évangéliste montre qu'il est complètement subjugué par cet appel, et il va au Seigneur, il vient vers Jésus, qu'il ne voit pas d'ailleurs. Alors Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Très souvent, Jésus, dans l'évangile, pose cette question au malade. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Évidemment, il sait très bien ce que cet aveugle désire voir. Jésus le sait. Humainement, n'importe qui pourrait le deviner. En plus, il est Dieu. Il sait très bien ce que veut cet aveugle. Pourquoi il le dit ? Eh bien, pour que l'autre pose sa demande, pour qu'il exprime son souhait. C'est vrai qu'au départ, il a dit « Prends pitié de moi », mais maintenant, il lui demande d'exprimer clairement ce qu'il veut, pour qu'il puisse poser un acte de foi en disant cela. Quand on dit au Seigneur, « Seigneur, je désire cette guérison, c'est ta volonté, je désire cela », on pose en même temps un acte de foi. Et donc le Seigneur l'amène à poser un acte de foi supplémentaire en disant ce qu'il veut devant tout le monde, parce que tout le monde l'écoute, cet aveugle. Donc il est peut-être impressionné par les gens qui sont autour. Et bien pas du tout. Il répond « Rabboni », c'est une manière très affectueuse de dire « mon maître », fait que je vois. Sa prière, une fois encore, elle est très simple. Il ne fait pas une demande en 10 pages et 5 paragraphes, ou je ne sais pas quoi. Il fait une demande très simple avec le Seigneur, c'est des choses simples. Et le Seigneur, eh bien, répond, va, ta foi t'a sauvé. C'est intéressant, il ne dit pas, recouvre la vue, parfois il dit à des personnes, voilà, te voilà guéri. Mais là, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est comme une évidence que quand il lui dit, va, tu peux aller cheminer maintenant, ta foi t'a sauvé. Dans ce salut, il y a sa guérison. Mais il y a plus que la guérison. Parce que la guérison, c'est pas encore être sauvé. On peut être guéri et pas sauvé, ou on peut ne pas être guéri et être sauvé quand même. Ta foi t'a sauvé, ça veut dire que tu as obtenu le salut, tu as obtenu bien plus que ta guérison. Et ta guérison en prime, ta foi t'a sauvé. C'est par ta foi que tu as ouvert la porte à toutes les grâces que je voulais te donner, dont la plus grande est le salut. Et aussitôt, il recouvra la vue pour bien montrer que la parole de Jésus est efficace. Tout à l'heure, Thibaut parlait de la Genèse. Dans les premiers versets de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu, elle est totalement efficace. C'est pas une parole humaine qui peut avoir une certaine efficacité, mais qui aussi part dans le vent. La parole du Seigneur part jamais dans le vent. La parole de Dieu, elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait et elle est toute puissance. Et alors, il recouvre la vue, il se prend maintenant en main et il décide de suivre Jésus. Mais attention, il va suivre Jésus qui va vers sa croix. Ça veut dire que cet homme qui a été guéri accepte maintenant de suivre Jésus au pied de la croix. Il accepte aussi de vivre les souffrances de la mission du Seigneur, même s'il a été guéri. Et il va probablement ensuite, comme je le disais tout à l'heure, participer à la communauté chrétienne des premiers temps. Voilà, alors tout ça c'est un encouragement pour nous à recevoir des choses de ce témoignage, des choses dans ce récit qui peuvent nous aider à grandir dans notre foi, à nous simplifier, à savoir poser des actes de foi, à ne pas hésiter à demander des choses au Seigneur, à ne pas empêcher les autres d'aller vers Jésus, à encourager les autres dans leur foi. Voilà, il y a plein de choses que nous pouvons recevoir pour nous. Maintenant, je vais donner quelques témoignages dans ce mail que j'ai reçu récemment d'une personne qui s'appelle Regina. Alors, je viens vous apporter ce témoignage au nom de ma sœur Franca. Donc c'est Regina qui a décidé de témoigner pour sa sœur. Nous sommes venus le 1er décembre 2016 pour la deuxième fois à la prière des malades à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Au passage du Saint-Sacrement, ma sœur Franca, qui subissait des douleurs importantes de toute sa colonne vertébrale depuis de nombreuses années, a ressenti un état de bien-être instantané. Son corps était tout à coup plus léger. Elle s'est aperçue qu'elle pouvait rester en position debout sans avoir aucune difficulté, alors qu'auparavant la station debout lui était pénible à supporter, et cela au bout de très peu de temps. Et c'est quand elle a essayé de mouvoir sa tête vers la droite et vers la gauche, ceci s'effectuant facilement et sans douleur, qu'elle a compris avec émotion et émerveillement que Jésus lui avait accordé la grâce de guérison. Nous sommes un peu plus de 2 mois après la guérison, elle va toujours aussi bien, sans aucune douleur dans la colonne vertébrale. Donc je rappelle qu'elle souffrait, me dit Franca, de douleurs importantes depuis de nombreuses années, et qu'elle ne pouvait pas rester dans une position longtemps, en tout cas surtout pas debout. Nous remercions infiniment notre Seigneur Jésus qui, dans son immense bonté, a bien voulu accorder la guérison à ma sœur Franca. Et un grand merci également pour toutes les aides que Jésus accorde à tous les malades qui sont en demande. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Avec tout notre amour, nous te remercions infiniment. Merci infiniment aussi à toute l'équipe de la prière des malades. Voilà, ben merci à Régina pour ce témoignage, pour sa sœur Franca, qui a été guérie la deuxième fois qu'elle venait à Saint-Nicolas-des-Champs. Je vais donner d'autres témoignages. Suite à une parole de connaissance, Florence a réussi à donner deux pardons difficiles, car les conflits qu'elle vivait avec ces personnes étaient lourds. Elle a même réussi à venir en aide à l'une des deux personnes à qui elle a pardonné, ce qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir faire. Pouvoir donner à quelqu'un la force de pardonner, c'est plus beau encore qu'une guérison physique. C'est pour ça que ces témoignages sont très importants. La grâce de pouvoir pardonner que le Seigneur lui a donnée au cours de la prière des malades à deux personnes. Marianne avait mal aux jambes depuis 3 ans, suite à une parole de connaissance, donc annonçant que le Seigneur guérissait une personne des jambes. Eh bien, ses souffrances se sont quasiment stoppées. Elle dit qu'elle ne souffre plus que très rarement. En tout cas, l'IRM, qui a été fait 2 semaines après, a confirmé sa guérison. Marie-Andrée avait très mal sous les pieds et il lui était devenu extrêmement difficile de s'occuper de sa mère adoptive qui a 96 ans, de la laver, enfin qui avait 96 ans à l'époque, de la laver, de lui donner à manger. Elle a demandé de l'aide du Seigneur à la prière des malades en septembre 2015. Et une parole de connaissance a annoncé que Jésus allait guérir progressivement une personne qui souffre sous ses pieds. En sortant de la prière, Marie-Andrée a constaté qu'elle marchait déjà mieux et sa guérison totale s'est faite progressivement sans qu'elle ait besoin de prendre de médicaments. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison. Et puis je donne un dernier témoignage. Brigitte avait des problèmes d'arthrose dans le dos qui la faisaient beaucoup souffrir. Elle a été guérie à la prière des malades en janvier 2016. Depuis, elle ne souffre plus du tout de son dos. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour ces personnes qui sont venues nous les donner, en particulier au groupe d'écoute, qui écoute les témoignages à la fin de la prière, ou par mail. Voilà, nous allons maintenant nous accueillir le Seigneur parmi nous. Nous savons qu'il peut faire de grandes choses. Évidemment, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous savons que le Seigneur va guérir quelques personnes dans cette assemblée ce soir. Donc, ayons confiance en lui et remettons-lui toute notre vie. Et n'hésitons pas à poser des actes de foi, disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais n'hésitons pas aussi à intercéder les uns pour les autres. Nous allons accueillir maintenant Jésus dans le Saint-Sacrement réellement présent, ce pain qui est devenu sa chair à la messe.